Chapitre 8. Le lendemain, la tante Maria se rendait à la maison de la malade en compagnie de Stein et de Momo, écuyer pédestre de son aïeul. Cette dernière était montée sur la grave hirondelle qui, toujours serviable, douce et docile, marchait droit devant elle, la tête et les oreilles basses, sans se permettre aucun mouvement spontané, excepté quand elle rencontrait un chardon à la portée de sa dent. Quand ils furent arrivés, Stein fut tout surpris de trouver, au milieu de cette contrée où la nature était si triste et si aride, un lieu ombragé et agréable qui ressemblait à une oasis dans le désert. La mer s'ouvrait passage entre deux roches élevées pour former une anse circulaire arrondie en fer à cheval. Entourée d'un sable très fin et ressemblant à un plat de cristal sur une nappe dorée, quelques rochers se montraient timidement dans le sable, comme pour inviter à s'asseoir au bord de ce rivage tranquille. À l'un de ces rochers était amarrée la barque du pêcheur, balancée par le mouvement de la marée et s'agitant comme un coursier qui s'irrite d'être entravé. Au-dessus du rocher qui se trouvait en face, on apercevait le fort de Saint-Christophe, dont le sommet était couvert de touffes de figuiers sauvages, comme un vieux druide couronné de feuilles de chêne. À quelques pas de là, Stein découvrit un terrain qui le surprit beaucoup. C'était un de ces jardins souterrains qu'on appelle en Andalousie « navazos ». On les établit en creusant la terre à une certaine profondeur et en cultivant le fond avec un soin particulier. Des roseaux au feuillage vert et épais entouraient ce jardin placé sous terre, soutenant solidement par leurs racines fibreuses les terrains coupés perpendiculairement et le défendant par leurs tiges élevées et serrées contre l'invasion du sable. À cette profondeur, malgré le voisinage de la mer, la terre produit, sans avoir besoin d'arrosement, des légumes abondants et savoureux, parce que l'eau de la mer, filtrée à travers les couches épaisses du sable, se dépouille de son âcreté et arrive aux plantes avec les qualités convenables pour les alimenter. Les pastèques des Navazos, en particulier, sont exquises et atteignent une telle grosseur que deux suffisent pour la charge d'une bête de somme. « Est-il beau, le Navazo de l'oncle Pedro ?» dit la tante Maria. « Ne dirait-on pas qu'il l'arrose avec de l'eau bénite ? Ce pauvre homme est toujours au travail, mais on s'en aperçoit bien. » Aussi, il récolte des tomates grosses comme des oranges et des melons qui ont le diamètre d'une roue de moulin. Ceux que nous récoltons dans le corumbral au bord de la rivière sont encore meilleurs, dit Momo. Un corumbral est un plant de melons, de maïs et de légumes semés dans un terrain humide que le maître d'une ferme a l'habitude de laisser gratuitement aux pauvres gens de la campagne qui, en le cultivant, l'améliorent. « Quant à moi, je n'aime pas beaucoup les corumbrales, » dit la grand-mère en secouant la tête. « Est-ce que vous savez, grand-mère, » dit Momo, « ce que dit le proverbe ? Il dit qu'un corumbral produit chaque année à son maître 2000 réaux, un manteau, un porc gras et un héritier. »« Tu as oublié la fin du proverbe, » dit la tante Maria. « Il dit qu'il y a des années bonnes et des années mauvaises, » et que ces dernières font perdre le profit des autres, à l'exception de l'héritier. Le pêcheur avait construit sa cabane avec les débris de sa barque, que la mer avait jetée sur la plage, et en avait appuyé le toit contre le rocher. Cette demeure avait trois étages. Le premier se composait d'une pièce élevée, pouvant servir de salle, d'une cuisine, d'un poulailler et d'une étable, pour abriter la bourrique en hiver. Le second, auquel on montait par quelques marches grossières taillées à pic dans le roc, se composait de deux petites chambres. Celle de gauche, sombre et appuyée contre le rocher, était la chambre de l'oncle Pedro. Celle de droite était la chambre de sa fille, qui jouissait du privilège exclusif d'une petite fenêtre qui avait appartenu à la barque et qui donnait vue sur la petite anse. Le troisième étage, auquel conduisait un petit passage qui séparait la chambre du père de celle de la fille, formait un galetas obscur et étroit. Le toit, qui, comme nous l'avons dit, était appuyé sur le rocher, était horizontal et fait en jonc, dont la première couche, pourrie par les pluies, produisait une forêt d'herbes et de petites fleurs, de manière que, Quand, grâce à l'humidité de l'automne, les plantes accablées par les chaleurs de l'été revenaient à la vie, la cabane paraissait couverte d'un jardin. Quand les nouveaux venus entrèrent dans la maison, ils trouvèrent le pêcheur triste et abattu et assis près du feu. En face de lui, sa fille, avec les cheveux tombant en désordre des deux côtés de son visage pâle, ployée en deux et grelottant, enveloppait ses membres amaigris dans un vêtement de laine brune. Elle ne portait pas plus de 13 ans. Avec une expression peu bienveillante, la malade tourna ses grands yeux, noirs et hardis, vers les personnes qui entraient, et se blottit de nouveau dans le coin du foyer. « Oncle Pedro, dit la tante Marie, vous oubliez vos amis, mais eux, ils ne vous oublient pas. Voudriez-vous bien me dire pourquoi le bon Dieu vous a donné une bouche? N'auriez-vous pas pu venir me dire que cet enfant était malade? Si vous me l'aviez dit plus tôt, je serais venue déjà avec ce monsieur qui est un médecin comme il y en a peu et qui ne tardera pas à vous la rendre bien portante. » Pedro Santalo se leva brusquement et s'avança vers Stein. Il voulut lui parler, mais il était tellement ému qu'il ne put articuler un seul mot. Il se couvrit le visage de ses deux mains. C'était un homme âgé, d'un extérieur grossier et de haute stature. Il avait le visage brûlé par le soleil et portait une couronne de cheveux blancs et bien fournis. Sa poitrine, rouge comme celle d'un indien de l'Ohio, était couverte de poils. « Allons, oncle Pedro !» poursuivit la tante Marie, dont les larmes s'échappaient sur ses joues en voyant l'abattement du pauvre père. « Un homme comme vous, solide comme une cathédrale et qui a l'air de vouloir manger les enfants tout crus, s'effrayer ainsi sans motif? Allons, je vois bien que chez vous, il n'y a que l'apparence de la force. » « Tante Marie, répondit le pêcheur d'une voix éteinte, avec celle-là, cela me fera 5 enfants de perdus. » Eh, mon Dieu, pourquoi vous désespérez ainsi? Souvenez-vous de votre saint patron qui s'enfonça dans la mer quand la foi qui le soutenait vint à lui manquer. Je vous dis qu'avec l'aide de Dieu, Don Frédéric guérira l'enfant dans le temps qu'il faut pour dire Jésus. » L'oncle Pedro secoua tristement la tête. Quels entêtés que ces Catalans! Dit avec vivacité la tante Marie. Et, passant devant le pêcheur, elle s'approcha de la malade et lui dit « Allons, Marie Salade, allons, lève-toi, mon enfant, pour que ce monsieur puisse t'examiner. » Marie Salade ne fit pas un mouvement. « Allons, pauvre créature, répéta la bonne femme, tu vas voir comment il va te guérir comme par enchantement. » En disant ces mots, elle prit la jeune fille par un bras en essayant de la faire lever. « Je ne veux pas !» dit la malade en se dégageant par une secousse de la main qui la retenait. « La fille est aussi douce que le père, et celui qui hérite d'une chose n'a pas besoin de la voler !» murmura Momo, qui avait présenté sa tête à la porte. « Elle est impatiente parce qu'elle est malade !» dit son père, cherchant à l'excuser. Marie Salade eut un accès de toux. Le pêcheur se tordait les mains de désespoir. « C'est un refroidissement, dit la tante Marie. Elle aura gagné cela jeudi dernier. Mais aussi, oncle Pedro de mes péchés, pourquoi laissez-vous courir cet enfant dans les rochers par le froid qu'il fait avec les pieds et les jambes nues ?»« Elle le voulait, dit l'oncle Pedro. Et pourquoi ne lui donnez-vous pas une bonne nourriture, de bons bouillons, du lait, des œufs et non pas de ces coquillages qui sont tout ce qu'elle mange ?»« Elle ne veut pas !» répondit l'oncle Pedro, abattu. « Elle mourra d'avoir été mal dirigée !» opina Momo, appuyé les bras croisés contre l'embrasure de la porte. « Veux-tu bien mettre ta langue dans ta poche ?» dit son aïeul impatienté. Et, s'adressant à Stein, « Tâchez, Don Frédéric, de l'examiner sans qu'elle ait besoin de se déranger, car on ne la ferait pas bouger quand on la tuerait. » Stein commença par demander au père quelques renseignements sur la santé de sa fille. Puis, s'approchant de la patiente qui était assoupie, il observa que ses poumons étaient oppressés dans l'étroite cavité qu'ils occupaient et irrités par suite de cette oppression. Le cas était grave. Elle avait une grande faiblesse, occasionnée par le manque de bons aliments, une toux sèche et profonde et une fièvre continue. Enfin, elle était menacée de consomption. « Et pourra-t-elle encore chanter ?» demanda la vieille pendant l'examen. « Elle chanterait crucifiée comme une chauve-souris, » dit Momo en mettant la tête en dehors de la porte pour que le vent emportât ses paroles et que sa grand-mère ne les entendît pas. « La première chose à faire, » dit Stein, « est d'empêcher que cet enfant s'expose aux intempéries de la saison. »«
Tu l'entends ?» dit le pauvre père à sa fille.
« Il faut, » continua Stein, « qu'elle soit vêtue et chaussée chaudement. »«
Mais si elle ne le veut pas !» s'écria le pêcheur
en se levant précipitamment et ouvrant un grand coffre de cèdre d'où il tira une quantité de vêtements.
« Rien ne lui manque. Tout ce que j'ai et tout ce que je pourrais y ajouter est pour elle. Maria, mon enfant, voudras-tu mettre ces effets ?»«
Mets-les, ma petite Maria, tu vois bien que le médecin l'ordonne. » La jeune fille, réveillée par le bruit qu'avait fait son père, lança un regard de mauvaise humeur à Stein en disant sèchement
« Qui est-ce qui a la prétention de me commander à moi ?»«
Je ne me donnerai pas tant de mal que cela. Il suffirait d'une bonne baguette de houx, » murmura Momo.
« Il est nécessaire, » poursuivit Stein, « qu'on la nourrisse bien et qu'elle prenne des bouillons fortifiants. »
La tante Maria fit un geste expressif d'approbation. « Il faut la nourrir avec du lait, du poulet, des œufs frais et autres choses analogues. »«
Quand je vous le disais, » s'écria la bonne femme, « que monsieur est le meilleur médecin du monde entier. »«
Ayez soin qu'elle ne chante pas, » dit Stein.
« Je ne l'entendrai donc plus, » s'écria le pauvre père.
« Voyez quel malheur !» répondit la tante Marie. « Laissez-la revenir à la santé, et alors elle pourra chanter jour et nuit comme une horloge. Mais je pense que ce qui vaut le mieux, c'est que je l'emmène chez moi, car il n'y a ici personne qui soit capable de la soigner et de faire un bon pot-au-feu comme je sais les faire. »
« Je le sais par expérience, » dit Stein en souriant. Et je puis affirmer que le bouillon fait par ma bonne garde-malade serait digne d'être présenté à un roi. »
La tante Marie devint tout enflée de satisfaction.
« Ainsi donc, oncle Pedro, il n'y a pas à dire, je l'emmène avec moi. »«
Moi, rester sans elle, c'est impossible. »«
Oncle Pedro, ce n'est pas là aimer véritablement ses enfants, » répliqua la tante Marie.
« Aimer ses enfants, c'est mettre leur intérêt au-dessus de tout le reste. »«
C'est bien, » répondit le pêcheur en se levant brusquement. « Emmenez-la, je la remets entre vos mains. Je la confie aux soins de ce monsieur et je la recommande à la protection divine. »
En disant ces mots, il sortit avec précipitation de la maison et alla harnacher sa bourrique.
« Don Frédéric ?» demanda la tante Marie quand ils furent restés seuls avec la jeune fille qui était comme en léthargie. « N'est-il pas vrai que vous la guérirez avec l'aide de Dieu ?»«
Je l'espère bien, » répondit Stein. « Je ne puis vous dire combien ce pauvre père m'inspire d'intérêt. » La tante Marie fit un paquet des vêtements que le pêcheur avait atteints et celui-ci revint, amenant sa bête par la bride. Tous ensemble, ils placèrent dessus la malade qui, accablée par la fièvre, ne fit pas de résistance. Avant que la tante Marie fût montée sur l'hirondelle, qui paraissait assez satisfaite de revenir en compagnie d'Ourca, tel était le nom de la bourrique de l'oncle Pedro, ce dernier appela à part la bonne vieille et lui dit en lui donnant quelques pièces d'or.
« J'ai pu sauver cela du naufrage. Prenez-le et donnez-le au médecin, car tout ce que j'ai est pour celui qui sauvera ma fille. »
« Gardez votre argent, » dit la tante Maria, « et sachez que le docteur est venu ici, premièrement pour Dieu, et en second lieu pour moi. »
La brave femme laissa voir un peu de vanité en disant ces mots.
« Vous ne vous arrêterez pas, grand-mère, » dit Momo qui marchait derrière l'hirondelle, « sans avoir rempli de monde le couvent, quelque grand qu'il soit. Comment, est-ce que cette cabane n'était pas assez bonne pour la princesse Mouette ?»
« Momo, » répondit son aïeul, « reste dans tes choses et ne te mêle que de ce qui te regarde. »«
Mais, grand-mère, qu'avez-vous donc à voir avec cette mouette sauvage et en quoi vous intéresse-t-elle pour que vous la preniez ainsi à votre charge ? »
Momo, le proverbe dit « Qui est ta sœur ? Ta plus proche voisine. » Et un autre proverbe ajoute « Mouche l'enfant du voisin et reçois-le dans ta maison. » Et le commandement de Dieu nous dit « Aime ton prochain comme toi-même. » Il y a un autre proverbe qui dit « Cogne la tête de ton voisin contre le mur. » répondit Momo. « Mais soit, vous vous êtes mis dans la tête d'enlever la palme à Saint-Jean de Dieu. » « Et tu ne seras pas l'ange qui m'aidera, » dit tristement la tante Marie. Dolorès reçut à bras ouverts la malade, approuvant vivement la détermination de sa belle-mère. Avant de retourner chez lui, Pedro Santalo, qui avait amené sa fille, prit à part la charitable garde-malade et lui dit, en lui mettant les pièces d'or dans la main, « C'est pour payer les frais de la maladie et pour qu'il ne lui manque rien. » « Quant à votre charité, tante Marie, c'est Dieu qui la récompensera. » La bonne vieille hésita un instant, puis elle accepta l'argent en disant « C'est bien, il ne lui manquera rien. Partez sans inquiétude, oncle Pedro, votre fille est en bonne main. » Le pauvre père sortit précipitamment et marcha sans s'arrêter jusqu'à ce qu'il fût arrivé sur la plage. Là, il s'arrêta, tourna le visage vers le couvent et se mit à pleurer amèrement. Pendant ce temps-là, la tante Marie disait à Momo « Mets-toi en route, va-t'en au village et apporte-moi un jambon de chez Serrano qui aura l'obligeance de t'en donner un vieux quand il saura que c'est pour un malade. Apporte aussi une livre de sucre et un carteron d'amandes. » « Allez, allez-y donc !» s'écria Momo. « Et vous vous figurez qu'on va me donner cela à crédit et sur ma bonne mine ?»« Voilà de quoi payer, » dit la grand-mère en lui mettant dans la main une pièce d'or de 4 douros. « De l'or ?» s'écria Momo, qui, pour la première fois de sa vie, voyait une pièce de monnaie de ce métal. « D'où diable avez-vous tiré cela ?»« Que t'importe ?» répondit la tante Marie. « Ne t'occupe pas des affaires des autres. Cours, vole !» Tu n'es pas encore de retour ? Moi, que je serve de valet à cette coquine de la plage, à cette damnée mouette, il ne manquait plus que cela. Je n'irai ni pour elle, ni pour les Catalans. Allons, mon enfant, en route et dépêche-toi. Je n'irai pas, on me mettrait plutôt en pièces, répliqua Momo. Rosé, dit la tante Maria en voyant sortir le berger, vas-tu au village ? « Oui, tante Marie, avez-vous quelque ordre à me donner ?» La bonne femme lui donna ses commissions et ajouta « Ce Momo, ce mauvais cœur, ne veut pas y aller, et je ne sais si je dois le dire à son père, car il s'en porterait et serait capable de lui rompre les os. » « Oui, oui, donnez-vous bien du mal à soigner cette corneille qui vous arrachera les yeux, » dit Momo. « Vous verrez comment elle vous récompensera. Attendez !»